Bonjour à chacun. Un chrétien faisait la queue dans un célèbre fast-food, dont je ne citerai pas le nom, quand la personne devant lui, qui était en train de se faire servir, se mit soudainement en colère. « Dépêchez-vous » dit-elle. Une voix pleine de frustration à la jeune fille qui la servait. « Vite, ajoutez quelque chose à ma commande !» Normalement, quand quelqu'un veut un autre sandwich ou un peu plus de frites, ils sont beaucoup plus calmes. Intrigué, notre chrétien prête un peu plus attention à ce qui se passe devant lui et finit par comprendre quand il lit le total de la commande affichée à la caisse. 6 $ et 66 cents. Devant l'irritation de la cliente et le désarroi qu'elle lit dans son regard angoissé, la jeune serveuse finit par suggérer une part de tarte aux pommes. « C'est parfait !» lui répond sèchement la cliente. Observant la scène, notre chrétien ne peut s'empêcher de remarquer la Bible qui dépasse du sac de la personne qui vient de passer commande. Sans doute est-elle aussi chrétienne, pense-t-il. Est-il possible qu'elle ait pensé que l'alignement des 3 chiffres 6 sur la facture allait lui porter préjudice? Alors qu'il se pose cette question, il entend la cliente s'exclamer avec soulagement « Waouh, j'ai eu chaud !» C'était à 2 doigts. J'ai pas besoin de malchance en ce moment. Mon cousin a une fois acheté quelque chose pour 6 $ 66 et il est tombé gravement malade. Nous vivons dans un monde profondément superstitieux. Un monde où beaucoup de nos contemporains attribuent à quelque chose, une date, un objet, un lieu, une personne, un geste, et j'en passe, le pouvoir de porter malheur ou le pouvoir de porter chance, le pouvoir d'influencer positivement ou négativement sur le cours des événements. Saviez-vous que la plupart des grandes tours, des mégalopoles, des grandes villes de ce monde, des gratte-ciel, n'ont pas de 13e étage? Saviez-vous que beaucoup d'hôtels, de grands hôtels et d'hôpitaux n'ont pas de chambre qui porte le numéro 13? Saviez-vous que beaucoup d'avions, dans des plus grandes compagnies aériennes, n'ont pas de rangée numéro 13? Ces exemples ne sont qu'une goutte d'eau dans la nébuleuse quasi infinie des manifestations de la superstition dans notre monde. Pattes de lapin qu'il faut porter, fer à cheval qu'il faut accrocher, chat noir qu'il faut éviter de croiser, corbeau dans le ciel, miroir brisé, trèfle à 4 feuilles, toucher du bois, croiser les doigts, renverser du sel, jeter du sel par-dessus l'épaule gauche, dire jamais 203, araignée du matin ou araignée du soir, passer sous une échelle, se lever du pied gauche, marcher dans une crotte, sauter par-dessus le seuil de la porte, ouvrir un parapluie dans un intérieur, toucher le pompon d'un marin, faire un vœu en jetant une pièce dans certaines fontaines, couteau qu'il ne faut surtout pas donner en cadeau, pain qu'il ne faut pas jeter sans avoir pensé au Christ, le chiffre 13, bien évidemment, être 13 à table, se marier un vendredi 13. Et je pourrais continuer encore un bon moment. Je me suis amusé sur Internet et c'est incroyable. Vous avez des pages et des pages et des pages de superstitions. Un peu d'humour pour finir cette liste bien complète. J'ai terminé avec se marier un vendredi 13. C'est Georges Courteline qui disait au sujet de se marier un vendredi 13 qu'il est exact que ça porte malheur car il n'y a pas raison que ce jour fasse exception. Bon, ça c'est un peu d'humour. Hein. Nous pourrions continuer effectivement un long moment à faire le catalogue de toutes ces pratiques, de tous les gris-gris, de tous les charmes, des médaillons et autres choses censées nous porter chance, nous protéger, nous apporter le gros lot, ou alors conjurer le sort, la poisse éviter la malchance. Nous vivons dans un monde très superstitieux. Qui pourrait légitimement en douter ? Si les superstitions touchent tous les domaines de la vie, santé, travail, argent, fertilité, protection, etc., il en est un, le sport, et le foot en particulier, actualité oblige avec l'Euro de football qui va bientôt commencer, où les manifestations superstitieuses atteignent des sommets. Il n'est plus possible de voir un match de foot sans voir un nombre conséquent de joueurs faire le signe de croix plusieurs fois en entrant sur le terrain, embrasser le maillot, embrasser l'emblème du club sur le maillot, lever les bras au ciel pour prier les dieux du foot, entrer sur le terrain toujours avec le même pied, ne pas marcher sur la ligne quand on entre sur le terrain. Et là aussi, vous pouvez aller vous taper « superstition dans le foot » et vous verrez que vous avez des kilomètres. Qui ne se souvient pas du baiser déposé avant chaque match par Laurent Blanc sur le crâne chauve de Fabien Barthez pendant le Mondial 98 ? Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a tout ce qui se passe dans les vestiaires, et c'est là que la liste est très très longue, qui se passe dans les heures qui précèdent les matchs, avec toutes sortes de rituels dans lesquels les joueurs sont enfermés, jour de match après jour de match, et qui se répètent à l'infini. Le comportement superstitieux est pétri de comportements irrationnels, voire magiques. Et d'ailleurs, la superstition et la magie sont intimement liés. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'entre pas dans ce sujet. D'une certaine manière, la magie n'est que le développement d'une certaine superstition, ou en tout cas, une certaine magie n'est que le développement de la superstition. Et je ne parle pas ici des réalités occultes, c'est un autre sujet. S'il est souvent irrationnel et magique, le comportement superstitieux est aussi souvent paradoxal. Et il n'est pas rare que les personnes qui pratiquent, qui sont superstitieuses, disent, quand on leur pose la question du pourquoi, elles répondent qu'elles n'y croient pas vraiment, mais on ne sait jamais. C'est juste au cas où. Cette contradiction, ce paradoxe, ressort bien de la petite histoire suivante. Et c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un célèbre savant atomiste danois, Niels Bohr, qui avait mis un fer à cheval sur la porte d'entrée de sa maison. Et un jour, un visiteur l'a remarqué et lui a dit « Je suis étonné qu'un homme comme vous, aussi rationnel que vous, puisse croire à une telle superstition. » Et la réponse de ce savant a été la suivante « Oh, je n'y crois pas !» répondit le savant. Mais on m'a dit que le fer à cheval porte bonheur, qu'on y croit ou pas. Et cette anecdote, elle rejoint cette phrase, alors je n'ai pas trouvé l'auteur, mais c'est tout à fait dans la même veine. « Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. » Le monde superstitieux est rempli de paradoxes en tout genre. Nous vivons donc dans un monde rempli de superstitions et nous devons constater que la chrétienté n'est pas exempte de superstitions. Voltaire, interrogé à ce sujet, disait ou écrivait, je ne sais pas, que la superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très folle d'une mère très sage. Il y a clairement des points de contact entre les deux. On peut mentionner, par exemple, le fait de croire, la croyance en particulier dans un monde invisible, dans des forces que l'on ne voit pas. Et ces points de contact, et on pourrait en citer d'autres, font que il n'est pas rare et il n'est pas étonnant finalement que ces deux réalités finissent par se mélanger. Elles se mélangent au point que les plus sceptiques mettent tout dans le même sac, les croyances et la foi, les gris-gris et la Bible, les messes noires et les cultes protestants, et font de la superstition une croyance parmi d'autres, ou alors, dit autrement, font de la foi une superstition parmi d'autres. Pour eux, croire en Dieu ou croire dans le pouvoir d'un trèfle à quatre feuilles, c'est finalement la même chose. Il y a bien évidemment une différence entre la foi véritable et la superstition, même s'il est possible, et nous l'avons déjà souligné, à des degrés divers, que les deux réalités soient mêlées. Que penser de toute la piété qui tourne autour des reliques, par exemple, des images, des pèlerinages, de l'eau bénite, des scapulaires et autres médailles saintes censées nous protéger, censées protéger ceux qui les portent, ceux qui les touchent, ceux qui y croient, ceux qui les prient. Et là aussi, nous pourrions allonger la liste. Force est de constater que la foi et la superstition font assez souvent bon ménage. C'est parfois consciemment, et puis peut-être très souvent inconsciemment, que ces pratiques superstitieuses se mêlent les unes aux autres, se mêlent à la foi et à la piété des croyants. Et nous ? Qu'en est-il de nous, évangéliques ? Qu'en est-il du monde évangélique ? Nous devons constater ici que la présence de superstition est une réalité aussi dans le monde évangélique. Le monde évangélique n'est pas en reste dans ce domaine. Ce fut un choc pour moi de constater, il y a quelques années, que dans le recueil de « J'aime l'Éternel », le numéro 2, qui va au-delà des numéros du premier, quand on arrive à 665, le suivant, c'est 667. J'ai regardé, je me suis dit, là, il doit y avoir une erreur. Ah ben non, il n'y a pas de numéro 666. Pourquoi ? Est-ce que ça ne serait pas un peu de la superstition ? Mais de quoi avons-nous peur au juste ? Que dire de ces mails que l'on reçoit, qu'il faut envoyer à 5 personnes ou plus de ses contacts afin d'être béni ? Que dire de ces chaînes de prières, entre midi et 2 par exemple, ou pendant 40 jours, ou pendant 90 jours, auxquelles il faut s'associer pour le réveil de la France, par exemple ? Que dire de cette prière de 1000 personnes sur un site chrétien très connu, qui toutes ensemble prient à la même heure pour tel pays afin que Dieu le bénisse ? Que dire de ceux qui, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, qui placent systématiquement dans toutes leurs conversations le nom de Jésus ? Que dire de toutes ces pratiques qui, sous couvert de piété et de grande spiritualité, sont mêlées de superstitieux et parfois même de magiques ? Non, le monde évangélique, la piété évangélique, n'est pas dépourvue de certaines formes de superstition. Et nous ? Qu'en est-il de nous ? Y a-t-il du superstitieux dans notre vie ? Ce qui m'a intéressé pour ce matin, après avoir fait un peu tous ces constats, brossé ce tableau en guise d'introduction, ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir à la place du superstitieux dans ma vie, dans notre vie, dans notre vie d'Église, dans nos pratiques, dans notre compréhension de la vie chrétienne, dans notre piété. Est-ce que le constat de la foi qui donne la main à la superstition n'est qu'une réalité d'une autre partie du monde chrétien ? N'y aurait-il pas parfois des formes subtiles, très subtiles, de superstition dans notre foi et dans nos pratiques ? Je ne parle ici que des formes subtiles, et non pas de toutes les superstitions ouvertes qui peuvent malheureusement exister dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, comme la lecture quotidienne, hebdomadaire de son horoscope, par exemple. Une lecture qui peut parfois supplanter la lecture de la Bible. Un sondage de 2009, ce n'est pas très vieux, mais on en trouverait sans doute des plus récents, aux États-Unis, révélait que 23% des chrétiens, toutes tendances confondues, lisaient leur horoscope tous les jours et croyaient à l'astrologie. Alors c'est peut-être les États-Unis, direz-vous, mais c'est le monde chrétien quand même. En réfléchissant à cette question de la place du superstitieux dans notre foi et dans notre piété, j'ai fini par identifier quelques points qui pourraient mériter notre attention et notre vigilance. Et j'aimerais les évoquer maintenant. Et je commencerai par la prière. Il me semble que s'il y a un domaine où l'on peut rapidement basculer dans le superstitieux, c'est bien celui de la prière. La superstition dans la prière peut prendre toutes sortes de formes. Il y a tout d'abord la question des mots que l'on emploie, des formules que l'on utilise, les bonnes ou les mauvaises. Alors nous ne pratiquons pas la récitation de prières toutes faites, mais ces prières toutes faites peuvent fonctionner souvent comme des incantations, des formules magiques que l'on va répéter. Qu'en est-il des formules qui terminent nos prières, par exemple ? Dieu exaucera-t-il ou n'exaucera-t-il pas la prière qui ne se termine pas par « au nom de Jésus » ? Prier au nom de Jésus, qu'est-ce que c'est ? C'est prier conformément à tout ce que ce nom représente. Et cela, que je dise la formule ou pas, bien évidemment. C'est la prière qui est dans la volonté de Dieu qui est exaucée. Pas celle dont les mots sont justes, pas celle dont les mots sonnent bien, pas celle dont l'agencement est parfait ou orthodoxe. Et nous devons veiller à ne pas surévaluer et survaloriser les mots comme si certains d'entre eux pouvaient garantir l'exaucement de la prière. Ce qui compte avant tout, nous le savons, dans la prière, c'est le cœur, c'est la sincérité et c'est la relation que j'ai avec Dieu. Dans cette même pensée, Jésus, enseignant sur la prière, va dire à ses disciples, dans le sermon sur la montagne, ces quelques phrases. « En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. » La bonne formule, le bon enchaînement, suffisamment de répétitions, c'est peut-être rassurant pour celui qui le fait, mais ce n'est rien d'autre qu'une forme de superstition. Et il y a ainsi attaché à la prière et à la pratique de la prière bien des choses qui, à bien y réfléchir, pourraient ressembler à de la superstition. La prière à genoux est-elle plus pieuse, plus efficace que la prière assis ou debout ? La longue prière est-elle mieux exaucée que celle qui est courte ? Pourquoi fait-on des nuits de prière, des nuits debout ? Comme s'il fallait convaincre Dieu, peut-être pour le forcer à agir ? N'est-ce pas là un peu aussi la multiplication des paroles dont parle Jésus ? La persévérance dans la prière, parce que c'est finalement de cela dont il s'agit, ce n'est pas le rabâchage mais c'est la confiance dans la durée. Et puis, que penser de ce que nous disons assez souvent devant un besoin particulier ? Quelqu'un nous partage quelque chose et nous disons « Je vais vraiment prier pour toi ou pour cela. » Ah bon ? Alors, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps quand on se contente de prier simplement et pas vraiment ? Quelle est la différence ? Est-ce que l'intention et l'intensité de notre prière auraient-elle une influence sur son exaucement ? Le penser, n'est-ce pas établir une sorte de rapport superstitieux entre les deux ? Attention donc à toutes ces formes subtiles de superstition, ça peut être le cas, peut-être que ce n'est pas toujours le cas, mais qui peuvent émailler notre vie de prière. La prière est importante, loin de moi l'idée de la minimiser ce matin. Elle dit la relation, elle dit la dépendance, elle dit la confiance du croyant envers son Dieu, envers son Père céleste. Ne prions pas parce que nous devons prier, mais parce que Dieu prend plaisir à ce que nous, ses enfants, nous venions à lui pour entrer dans une relation vivante avec lui. Après la prière, un mot sur la Bible. Sur la Bible et sur la lecture de la Bible en particulier. Et ici aussi, force est de constater qu'il est facile de glisser vers des formes subtiles de superstition. Pourquoi est-ce que je lis la Bible ? Pour nourrir ma foi ? Très bien. Pour que le Seigneur guide mes pas ? Très bien. Mais qu'en est-il de ces lectures qui sont faites pour se donner bonne conscience, qui rassurent, qui agissent un peu comme un rite protecteur ? Qu'il est facile de faire le lien entre ce qui va bien dans notre vie et la piété assidue dans notre vie, et entre ce qui va moins bien et notre piété négligente. Je suis sûr que nous avons déjà tous fait ce constat, à un moment ou à un autre. Qu'il est facile d'avoir une lecture, une compréhension superstitieuse de la lecture de la Bible au même titre que de la prière. Parce que oui, la lecture de la Bible peut fonctionner comme une sorte de porte-bonheur. Et le jour où je ne fais pas ma méditation le matin et qu'il m'arrive un truc dans la journée, est-ce que ça m'arrive à cause de cette négligence ? Attention à ce rapport quasi magique avec la Bible et sa lecture. Attention aussi à ce rapport quasi magique avec le livre lui-même, qui peut parfois devenir comme un talisman. Posséder une Bible dans une maison, sur soi, c'est un peu comme avoir un trèfle à quatre feuilles dans sa poche ou dans sa maison. Comme pour la prière, il est important de régulièrement nous demander pourquoi nous lisons la Bible et si nous le faisons. Nous la lisons parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous la lisons parce qu'elle nourrit notre âme. Nous la lisons parce que nous croyons que Dieu nous l'a donnée comme une lampe sur notre sentier. Nous la lisons parce qu'elle est une parole vivante qui renouvelle notre intelligence et nous transforme en profondeur. Nous la lisons parce qu'elle nous révèle le plan de Dieu, sa volonté pour notre vie et pour sa création tout entière. Ce rapport magique à la foi et aux choses de la foi peut bien évidemment, et je n'avais pas le temps de tout aborder ce matin, mais peut toucher à bien des domaines et bien des réalités de la vie et de la vie chrétienne. J'en mentionne encore deux ou trois. Par exemple, la Sainte Cène. On peut prendre la Sainte Cène de manière quasi magique et manger le pain et le vin comme des éléments chargés d'un certain pouvoir. Est-ce vraiment cela, la Cène ? Certains pensent même que le pain et le vin se transforment et deviennent véritablement corps et sang du Christ. Qu'en est-il de se marier à l'Église ? J'ai rien contre se marier à l'Église. Mais qu'en est-il quand on le fait uniquement parce que ne pas le faire, oh là là, ça serait partir du mauvais pied dans la vie à deux. Et ça devient une sorte de talisman, de rite protecteur. Qu'en est-il de la présentation des enfants à l'Église ? Pourquoi les présentons-nous ? Ne seront-ils pas protégés s'ils n'ont pas été présentés devant l'Assemblée ? Et les croix huguenotes que nous portons comme un signe d'identification, et c'est très bien, mais ne sont-elles pas parfois, elles aussi, portées comme des talismans ? En réalité, ces quelques exemples nous rappellent que beaucoup de bonnes choses peuvent être faites de la mauvaise manière ou pour les mauvaises raisons. Et en réalité, les choses sont souvent mêlées. Et l'identification du superstitieux dans notre vie n'est pas toujours évidente et demande un examen approfondi de notre cœur. Et nous avons cette belle prière à la fin du psaume 139 que nous connaissons bien. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur la superstition en général et sur le lien entre la superstition et la foi. En particulier, et ça aurait pu donner un message juste pour ce point-là, sur tout l'aspect de dépendance et d'esclavage qu'induit la superstition dans la vie des gens. L'angoisse de ne pas avoir fait le bon geste au bon moment et vous êtes enfermés dans ces craintes-là. Libre de nos chaînes, nous l'avons chanté, nous marchons vers toi. J'aimerais terminer en mentionnant une des causes principales de la superstition et peut-être son antidote. Et une des causes principales de la superstition, je le crois, et tout le monde, pour ainsi dire, s'accorde pour le dire, c'est la peur. La peur, et en particulier la peur de l'inconnu. On a souvent dit que, et c'est dans la citation de Voltaire aussi, que la superstition était la fille de la peur. Et je crois qu'il y a du vrai dans cela. Et l'être humain cherche depuis toujours à dominer ses peurs, à maîtriser son destin, à maîtriser le monde qui l'entoure, à assurer ses lendemains. Et il se rassure comme il peut. Mais derrière les superstitions, il y a souvent la peur de l'inconnu. La peur de demain, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de l'autre, et j'en passe. Alors, quel est l'antidote ? Y a-t-il seulement un antidote à cela ? Et j'aimerais dire que pour le chrétien, l'antidote se trouve bien évidemment dans sa relation à Dieu. Il se trouve dans la confiance que le chrétien met en son Dieu. Parce que Dieu est souverain, parce que Dieu tient ma vie dans sa main, parce que son amour parfait chasse toujours la crainte, parce que Jésus-Christ a tout accompli, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, je n'ai pas besoin de craindre pour mon lendemain. Je n'ai pas besoin de chercher à assurer mes arrières. Je n'ai pas besoin de lire mon horoscope pour savoir mon avenir, parce que mon avenir est dans les mains de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être superstitieux, parce que la foi que Dieu m'a donnée me garde dans sa confiance. L'amour parfait dont il m'a aimé chasse la crainte de ma vie. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes-vous reconnu à un moment donné dans une des descriptions faites ce matin ? Je m'y suis retrouvé à divers degrés plusieurs fois en préparant ce message. Que faire ? Simplement ce que Dieu nous invite à faire chaque fois que nous comprenons que nous avons fait fausse route ou que nous faisons fausse route. Le reconnaître devant lui, lui demander pardon pour notre incrédulité, identifier tout ce qui ressemble de près ou de loin à du superstitieux dans ma vie et l'abandonner résolument en demandant au Seigneur de m'aider, de nous aider à mettre notre confiance en lui et en lui seul. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.